Bon, il suffit d'imaginer la scène un instant, juste pour poser le décor. On est dans le hall majestueux d'un immense hôtel de luxe en plein cœur de Pékin.
Ouais.
Et il y a ces grandes portes à tambour à l'entrée qui tournent, bon, sans arrêt. D'un côté, on a Donald Trump qui vient tout juste de régler sa note, de faire ses valises et de quitter les lieux après une série d'échanges de très très haut niveau.
Le timing est fou.
Exactement. La porte tourne. Et au moment précis où elle termine sa rotation, devinez qui apparaît dans ce même hall avec toute sa délégation, prêt pour une visite officielle de 4 jours.
Vladimir Poutine, évidemment.
Voilà. Poutine en personne. Et honnêtement, c'est un chassé-croisé diplomatique tellement millimétré qu'on croirait presque le début d'un thriller politique.
Ah bah c'est clair que la symbolique, elle est lourde. Et en géopolitique, bah la diplomatie, c'est avant tout l'art du symbole. Voir les représentants de deux superpuissances rivales se frôler littéralement dans la capitale de la troisième, c'est évidemment pas un hasard de calendrier ou une erreur de réservation d'hôtel, quoi.
Non, ça c'est sûr.
C'est une chorégraphie qui est calculée au millimètre.
Et c'est fascinant parce que, en fait, notre premier réflexe en voyant ça, c'est de réagir un peu comme face à, je sais pas, un match de foot.
Ouais, on veut voir le score.
C'est ça, on a envie de regarder le tableau des scores, genre qui a signé le plus gros contrat, qui a réussi à charmer Xi Jinping. Sauf que si on s'arrête à ce niveau de lecture, on passe complètement à côté de ce qui se joue réellement en coulisses. Et d'ailleurs, c'est toute la force de l'analyse sur laquelle on se penche aujourd'hui.
Absolument. C'est un éditorial de Félicité Amania Ravi Vincent, qui est journaliste indépendante et la fondatrice de Radio Tam Tam Africa.
Exactement, et on le rappelle d'emblée, notre but ici, c'est pas du tout de prendre parti dans ces rivalités géopolitiques.
Non, pas du tout.
Voilà, on est neutre, on utilise juste les observations de ce texte pour mettre en lumière la mécanique du nouvel ordre mondial. Parce qu'elle prend cette image presque théâtrale de la porte à tambour pour décortiquer une bascule géopolitique colossale. Ce qu'elle décrit, c'est pas une simple anecdote diplomatique, c'est carrément le mode d'emploi d'une nouvelle gouvernance mondiale.
Et c'est une distinction fondamentale. Parce que la vieille méthode de gouvernance, celle qu'on connaît depuis la fin de la guerre froide, elle était relativement lisible. Il y avait un centre de gravité unique. Aujourd'hui, cette fameuse scène pékinoise, bah, elle nous montre un éclatement total de ce centre.
Alors justement, je veux qu'on prenne le temps de décortiquer ça ensemble. Si on regarde les joueurs assis autour de cette table à Pékin, on a l'impression qu'ils jouent même plus au même jeu en fait.
C'est exactement ça.
Prenons les États-Unis pour commencer. La stratégie semble être de préserver un leadership historique, notamment en maintenant un dialogue stratégique, mais il y a un truc qui m'échappe.
Allez-y.
Si la rivalité avec la Chine est si féroce, pourquoi maintenir ce contact permanent? Ce serait pas plus logique de couper les ponts ou d'isoler l'adversaire, comme à l'époque de l'URSS?
Alors, c'est une super question, et c'est là que la mécanique du pouvoir devient vraiment intéressante à observer. Isoler une économie de la taille de la Chine aujourd'hui, techniquement, c'est juste impossible sans provoquer un effondrement.
Un effondrement global, ouais.
Directement, un effondrement économique mondial. Les chaînes d'approvisionnement sont tellement imbriquées que l'approche américaine, ben, ça peut plus être l'isolement pur et dur. Donc le but de ce dialogue stratégique, c'est ce qu'on appelle la gestion de la compétition. En gros, on garde les canaux ouverts pour éviter qu'un incident mineur ne dégénère en conflit armé, tout en essayant de ralentir l'ascension technologique de l'adversaire avec des sanctions bien ciblées.
D'accord, donc c'est une posture de préservation.
Voilà, on gère le déclin relatif de sa propre hégémonie en essayant, tant bien que mal, de garder la main sur les règles du jeu.
Une tentative de freiner des quatre fers tout en gardant un grand sourire diplomatique, quoi.
C'est joliment résumé.
Mais du coup, face à ça, la Russie joue une toute autre partition dans le texte. L'analyse met en évidence la construction de ce fameux axe eurasiatique avec Pékin. On parle de créer une masse critique pour résister aux pressions occidentales. Mais concrètement, comment on construit un tel bouclier aujourd'hui? C'est juste signer des beaux accords d'amitié devant les caméras.
Ah non, non, c'est de la tuyauterie économique pure et dure. Quand un pays fait face à des sanctions massives comme la Russie, son accès au système financier mondial classique, il est coupé. Donc construire cet axe eurasiatique, ça veut dire créer de nouvelles infrastructures de paiement. Des trucs qui échappent complètement aux radars occidentaux.
Ah ouais, créer de nouveaux canaux.
Exactement. C'est construire de nouveaux gazoducs qui partent vers l'est plutôt que vers l'ouest. C'est intégrer leur chaîne logistique. En fait, la Russie, elle apporte des matières premières et une véritable profondeur stratégique. Et en échange, ben, elle trouve en Asie un marché de substitution gigantesque et surtout un fournisseur de technologies de pointe.
Une relation de nécessité mutuelle, en somme.
C'est ça. pour sécuriser leurs arrières respectives.
Ce qui nous amène fatalement au grand gagnant apparent de cette configuration, la Chine. C'est elle qui tient la fameuse porte à tambour. Elle coopère économiquement avec Washington tout en nouant des partenariats énergétiques et militaires qui sont vitaux avec Moscou. Et tout ça sans jamais s'aligner officiellement sur personne.
Le pragmatisme absolu.
Mais oui, c'est un peu comme un joueur d'échecs qui ferait une partie simultanée contre deux grands maîtres et qui s'assurerait que les deux adversaires se neutralisent pendant que lui, il ramasse les pièces au milieu.
Ouais, l'image est bonne. Mais je pense qu'il faut la pousser un peu plus loin pour bien piger le mécanisme. Dans une partie d'échecs simultanée normale, ce qui se passe sur la table A, ça n'affecte pas la table B, on est d'accord?
Oui, c'est séparé.
Ben là, c'est différent. C'est comme si les pièces que vous capturez face à l'adversaire américain, elles servaient directement à renforcer vos positions sur l'échiquier russe. Et inversement.
Attendez, mais comment ça fonctionne en pratique, ce truc?
C'est ce que j'appelle du pragmatisme systémique. La Chine, elle utilise ses immenses excédents commerciaux, l'argent qu'elle dégage en vendant des tonnes de biens manufacturés aux États-Unis, pour financer son propre développement et sa diplomatie. Mais en même temps, elle profite des hydrocarbures russes à prix cassé.
Ce qui baisse ses coûts de production.
Exactement. Ce qui rend son industrie encore plus compétitive pour continuer à exporter encore plus vers l'Occident. La boucle est bouclée.
Waouh, c'est diaboliquement efficace. Mais Washington et Moscou voient bien clair dans le jeu, non? Ils sont pas dupes, quand même.
Ils le voient parfaitement. Mais le truc, c'est qu'ils sont piégés par la structure même de cette nouvelle ère. Pendant des décennies, la règle non écrite de la diplomatie mondiale, qui était dictée par la superpuissance dominante, c'était l'ultimatum binaire. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous.
Le fameux discours de l'ère Bush, par exemple.
Ouais.
Mais ce que Pékin a réussi à faire, c'est de rendre cette règle totalement caduque. La Chine pèse si lourde économiquement aujourd'hui qu'elle peut se permettre de répondre « Bah, nous ne sommes ni avec vous, ni contre vous. Nous sommes avec nous-mêmes. »
C'est fort.
Très fort. En refusant de s'enfermer dans un bloc, Pékin préserve une liberté de mouvement totale.
Et le fait de pulvériser cette règle du « avec nous » ou « contre nous », ça envoie une onde de choc énorme. Parce que si on tire le fil de cette logique, c'est tout le système international qui se met à trembler.
L'analyse de Félicité Amaniara Vincent est super claire là-dessus. C'est l'acte de décès officiel du monde unipolaire. On entre de plein pied dans la multipolarité.
La fin d'une époque. Oui.
Mais arrêtons-nous une seconde sur ce terme de monde unipolaire, parce qu'on l'associe souvent à la domination militaire, aux bases américaines un peu partout, mais il y a un aspect qui est peut-être encore plus puissant et insidieux, c'est la monnaie, le dollar.
C'est même le nerf de la guerre, hein. L'unipolarité, elle reposait pas seulement sur des porte-avions, elle reposait avant tout sur l'architecture financière. Depuis des années, si disons une entreprise au Japon voulait acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite, la transaction, elle se faisait comment?
En dollars américains.
Ouais, la monnaie d'échange universelle. Voilà. Et ça obligeait toutes les banques centrales du monde entier à accumuler des réserves énormes en dollars. Ce qui, par ricochet, finançait la dette américaine. Et surtout, ça donnait à Washington un droit de regard et un pouvoir de sanction massif sur quasiment tous les échanges internationaux, via les réseaux bancaires comme SWIFT.
Et c'est là que j'ai toujours un peu de mal à visualiser le truc. Si un pays décide, genre du jour au lendemain, de se passer du dollar, qu'est-ce qui l'en empêche concrètement? Pourquoi c'est si compliqué de se dédollariser?
Imaginez que le dollar, ce soit la seule langue parlée dans le commerce international. Si vous décidez soudainement de parler une autre langue, plus personne vous comprend et vous pouvez plus rien acheter ni vendre. De plus, les tuyaux du système bancaire mondial, ils sont fortement surveillés et influencés par les institutions occidentales.
Donc si on veut changer de langue, il faut construire son propre réseau téléphonique, en gros.
C'est exactement ça. Contourner le dollar, ça veut dire devoir créer de nouveaux tuyaux, négocier des accords bilatéraux hyper complexes et surtout convaincre vos partenaires commerciaux d'accepter une monnaie qui est, la plupart du temps, beaucoup plus volatile. Le coût transactionnel, il est énorme.
Mais c'est précisément ce qui est en train de changer en ce moment. Si on reprend une image un peu ludique pour ceux qui nous écoutent, c'est comme si on imaginait une très longue partie de Monopoly. Pendant des années, la géopolitique, c'était ça. Une banque centrale unique, une seule monnaie acceptée et un joueur dominant qui possède les hôtels sur toutes les meilleures cases.
La rue de la paix géopolitique.
Exactement. Et là, c'est comme si, au beau milieu de la partie, il y a plusieurs joueurs qui décident de changer les règles. Ils refusent les billets de la banque centrale et ils commencent, tranquilles, à imprimer leur propre monnaie pour échanger leurs propriétés entre eux dans leur propre coin du plateau. C'est le chaos pour le banquier.
C'est une super métaphore, et c'est exactement l'idée de la fragmentation qui est abordée dans l'analyse. L'hégémonie de la monnaie unique, elle est brisée par l'introduction de cette complexité. Et la grande nouveauté, c'est que ce ne sont plus seulement Washington, Moscou et Pékin qui dictent cette complexité.
Oui. Et c'est ça qui est fascinant. On voit apparaître sur la carte des acteurs qui, il n'y a encore pas si longtemps, étaient considérés comme secondaires. L'éditorial mentionne spécifiquement New Delhi, Ankara, Riyad ou encore Brasilia. Ces capitales, ce sont plus de simples pions qu'on déplace sur le plateau.
Non, ce sont devenus des pôles de puissance à part entière. Et le mécanisme de leur influence, il est redoutable. Prenons l'Inde, par exemple.
Vas-y.
Quand New Delhi décide d'acheter massivement du pétrole russe, malgré les sanctions occidentales, et qu'elle cherche à régler une partie de ses transactions en roupies ou dans d'autres devises locales, eh ben l'Inde, elle ne fait pas que sécuriser son approvisionnement énergétique à bas prix, elle court-circuite activement la domination du dollar.
Mais comment ces pays qui n'ont pas forcément la puissance de feu militaire ou financière des États-Unis réussissent-ils à imposer ça ? Comment un pays comme le Brésil ou l'Arabie Saoudite peut peser si lourd face aux superpuissances historiques ?
Grâce à ce qu'on appelle le pouvoir asymétrique. Riyad, par exemple, elle n'a pas besoin de 10 porte-avions géants pour peser sur l'économie mondiale. Elle contrôle les vannes d'une ressource dont la planète entière dépend.
Le pétrole.
Voilà. Brasilia, de son côté, a un poids agricole et diplomatique incontournable dans l'hémisphère sud. Ces puissances, elles pratiquent la diplomatie transactionnelle. C'est vraiment de la diplomatie à la carte.
À la carte, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que sur la question climatique, elles peuvent s'allier avec l'Europe. Sur l'énergie, hop, elles s'alignent avec la Russie. Sur les infrastructures, elles signent avec la Chine. Elles maximisent leurs intérêts au cas par cas, sans s'enchaîner à un mètre. Et ça, ça crée une architecture mondiale hautement concurrentielle. Un réseau dense d'intérêts croisés où plus personne, pas même les États-Unis, ne peut dicter sa volonté seule.
Donc, on passe d'un monde très vertical, très hiérarchisé, à un réseau horizontal, complexe et super instable. C'est vertigineux. Mais en regardant cette nouvelle carte du monde décrite dans la source, il y a un truc qui saute aux yeux. Il y a de grands absents, d'immenses zones géographiques qui ne semblent pas encore avoir défini leur posture dans ce grand jeu.
Ah, le silence de certaines régions est effectivement très parlant. Et l'éditorial aborde cette question avec beaucoup d'acuité. La première question, c'est où se trouve l'Europe dans ce réseau ?
Bonne question.
Longtemps au centre du jeu, le vieux continent semble aujourd'hui lutter pour trouver une voie unifiée. L'Europe est complètement tiraillée entre ses alliances historiques transatlantiques et la nécessité urgente de protéger sa propre souveraineté économique face à ces nouveaux géants qui sont ultra agiles.
Et ça nous amène au point culminant de cette analyse. Parce que c'est pas pour rien que Félicité a mené Renvincent en tant que fondatrice de Radio Tantam Africa oriente la réflexion dans cette direction. Le véritable enjeu existentiel, la question à 1000 milliards de dollars, c'est la place de l'Afrique au XXIe siècle. On comprend vite que ce chassé-croisé à Pékin, au final, c'est juste l'arbre qui cache la forêt des dynamiques futures.
C'est le pivot absolu de l'équilibre mondial de demain. L'analyse met en lumière un carrefour vraiment décisif pour le continent africain, avec deux trajectoires diamétralement opposées. La première trajectoire, c'est le prolongement du statu quo historique.
C'est-à-dire l'Afrique comme terrain de jeu.
Exactement. Un échiquier secondaire où les blocs extérieurs, que ce soit les Occidentaux, les Russes, les Chinois, viennent s'affronter, placer leurs pions, extraire des ressources stratégiques et s'assurer des votes à l'ONU.
En résumé, subir les règles qui sont écrites à Pékin, à Washington ou à Bruxelles.
Voilà. Ça, c'est l'Afrique en tant qu'objet de la géopolitique. Mais la seconde trajectoire, et c'est là que ça devient passionnant, c'est l'Afrique sujet. C'est l'hypothèse où le continent s'érige en véritable acteur stratégique autonome. Et l'auteur insiste lourdement sur les leviers de cette autonomie. La défense des intérêts économiques, énergétiques, diplomatiques et surtout monétaires.
L'insistance sur le mot « monétaire » résonne particulièrement fort, surtout quand on vient juste de parler de la fin de l'hégémonie du dollar. Mais concrètement, comment on passe du statut de terrain de jeu à celui de joueur autonome ? Comment un continent aussi vaste, avec des dizaines de nations aux intérêts qui sont parfois divergents, peut-il s'imposer face à des blocs aussi hyper structurés ?
Le mécanisme y repose sur la valorisation de ce que le monde entier s'arrache. L'autonomie économique et énergétique, ça passe par une transformation structurelle majeure. C'est refuser de n'être qu'un exportateur de matières premières brutes.
Transformer sur place, donc.
Exactement. Si un pays possède du cobalt, du lithium ou des terres rares, ce sont des éléments qui sont absolument critiques pour la transition énergétique mondiale, Bah, l'autonomie, ça consiste à exiger que la transformation de ces minerais, elle se fasse sur le sol africain. Ça crée de la valeur ajoutée locale, des industries, de l'emploi.
C'est utiliser l'appétit féroce des grandes puissances contre elles-mêmes, en fait.
En quelque sorte, oui. C'est appliquer la méthode de la diplomatie transactionnelle qu'on observe à New Delhi ou à Brasilia. Si l'Occident propose des conditions de financement qui sont trop restrictives ou assorties de leçons de morale, bah un pays africain autonome, il peut se tourner vers les pays du Golfe ou vers l'Asie. Cette mise en concurrence directe des partenaires, ça donne un pouvoir de négociation totalement inédit.
Et sur le plan monétaire, parce que c'est souvent là que les souverainetés elles se heurtent à des murs invisibles, c'est le plus dur à acquérir.
Ah oui, c'est le plus complexe. L'autonomie monétaire, c'est la capacité à financer son propre développement sans dépendre exclusivement des devises étrangères et surtout sans subir les chocs des politiques monétaires qui sont décidées à Francfort ou à Washington.
Quand la Fed monte ses taux, ça n'asphyxie plus les économies locales.
Exactement. Mais ça implique de repenser des systèmes qui sont hérités du passé, de renforcer massivement les échanges intra-africains avec des systèmes de paiement locaux, de se détacher progressivement des monnaies tutélaires. C'est un processus qui est extrêmement complexe sur le plan technique, on va pas se mentir, mais c'est le prérequis absolu pour ne plus être à la merci des fluctuations extérieures.
Quand on relit tous ces points, je vous avoue que ça donne un peu le vertige. Parce que si on regarde ce qu'on appelle la big picture, la vue d'ensemble, l'enjeu ne concerne pas que le développement de l'Afrique en soi. Si un continent entier, avec sa dynamique démographique explosive et ses ressources critiques, décide d'adopter cette posture d'autonomie pragmatique dont on vient de parler, ben c'est tout le centre de gravité de la planète qui se déplace.
C'est la conclusion logique de toute cette réflexion. La bascule multipolaire, c'est pas juste une histoire de rivalité sino-américaine avec Poutine en invité surprise. La remise en question du dollar, l'agilité incroyable des nouvelles puissances émergentes et la quête d'autonomie stratégique du continent africain, ben en fait, ce sont les rouages interconnectés d'une seule et même machine. Le monde s'est fragmenté et les cartes sont en train d'être redistribuées.
C'est un voyage analytique assez incroyable. On est parti d'une simple image en ligne, des portes à tambour dans un hôtel pékinois, avec deux leaders mondiaux qui, bon, s'évitent à quelques heures près. Et en tirant le fil de cette image, on arrive à la nécessité vitale pour des continents entiers de redéfinir leur souveraineté face à un système financier et géopolitique en pleine mutation.
Tout est lié.
Ça montre à quel point il est crucial de regarder au-delà des gros titres de l'actualité. Derrière un simple « qui a rencontré qui », bah, il y a des mécanismes profonds qui redessinent l'avenir de nos économies et nos sociétés.
Oui, la complexité a définitivement remplacé la simplicité binaire de l'ancien monde. Et pour comprendre cette nouvelle ère, il faut vraiment abandonner nos vieux schémas de pensée. Les grilles de lecture de la guerre froide ou celles de l'hyperpuissance américaine des années 90, c'est obsolète. Il faut désormais apprendre à lire un monde de réseaux, d'alliances fluides et de puissances décentralisées.
Un monde d'alliance à la carte, comme vous disiez. Et d'ailleurs, cela soulève une dernière interrogation fascinante. Dans la droite ligne de l'analyse qu'on vient d'explorer, on voit bien aujourd'hui que les grandes puissances traditionnelles déploient une énergie folle pour courtiser ces nouveaux pôles d'influence.
Ah oui, c'est un ballet diplomatique incessant.
Alors, voici une réflexion à garder en tête pour les décennies à venir. Si la multipolarité s'installe durablement, et si l'Afrique réussit cette grande transformation, si elle parvient à imposer sa souveraineté monétaire, à transformer ses ressources sur place et à dicter ses propres termes dans ce grand jeu transactionnel, à quel moment verrons-nous ce fameux chassé-croisé de porte-tambour avec les dirigeants des plus grandes nations du globe qui patientent pour être reçus à quelques jours d'intervalle, se dérouler non plus dans les palaces de Pékin ou d'Europe, mais dans les couloirs d'une grande capitale africaine?
Voilà une excellente question qui remet les choses en perspective.
Voilà de quoi repenser nos cartes du monde. Et sur ce, on vous laisse y réfléchir.